Sans plus attendre, c'est ça, bien-aimés, nous allons continuer à regarder l'Épître aux Éphésiens et je vous invite à tourner en Éphésiens chapitre 4 et nous lisons ce que l'apôtre Paul, inspiré par Dieu, a écrit aux Éphésiens après ces trois premiers chapitres de notre position en Christ, de ce que nous possédons en Christ, de ce que nous avons en Christ. L'apôtre Paul, dans les chapitres 4 et 5 et 6, désire à ce que nous mettions en pratique ce que Dieu a fait de nous, ce que nous sommes en Christ. Et nous avons déjà lu ensemble les premiers versets. « Je vous exhorte, donc moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Nous avons parlé de la marche digne. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et ce serait bien de continuer, parce que le fil conducteur de Paul, c'est la marche digne qui donne l'unité. Mais nous avons pris le temps de regarder ensemble la marche digne, en toute humilité, douceur, patience. Et ce matin, nous allons regarder vous supportant les uns les autres avec amour. Je dis bien vous supportant les uns les autres avec amour. Est-ce que nous nous aimons les uns les autres? Est-ce que nous nous supportons? Qu'est-ce que ça veut dire cela? Eh bien, c'est ce que nous allons regarder dans un instant. Prions. Notre Père, nous te demandons humblement de nous aider à connaître ta parole, l'auteur de cette merveilleuse parole, afin que nous puissions être transformés par elle, mettre en pratique ces choses et vivre vraiment ce que tu nous demandes de vivre. Au nom de Christ. Amen. Juste en méditant ces jours-ci, ce message, je me suis dit, mais combien de fois nous lisons? Combien de fois nous écoutons la parole, mais est-ce que nous sommes vraiment promptes à la mettre en pratique? Je pense que c'est toujours le danger, hein, d'écouter, de lire ou même d'étudier et d'oublier de mettre la pratique de façon vraiment mesurable devant Dieu. Alors je ne sais pas comment le Seigneur va nous aider, nous, l'Église ici, frères et sœurs, à mettre en pratique cela, mais certainement que Dieu peut susciter en nous la bonne attitude de le faire à sa gloire. Alors le Seigneur nous demande de marcher digne, comment en toute humilité, douceur, patience, et ce matin, vous supportant les uns les autres avec amour. Ce n'est pas simplement ce matin, mais ce que nous allons souligner ce matin. En fait, l'amour, c'est l'amour fraternel, l'affection, la bonne volonté, la bienveillance, agapé, l'amour divin. Et avant d'aller un peu plus loin dans ce passage, enfin par rapport à ce texte, je pense que c'est bien d'introduire un petit peu, souligner les valeurs de l'amour. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. On ne peut pas parler d'église, on ne peut pas parler de marche et de témoignage si dans nos cœurs, il n'y a pas l'amour de Christ. Sans moi, vous ne pouvez rien faire et il n'y a pas de témoignage chrétien sans la puissance de l'amour de Christ en nous. Ça doit se voir, ça doit s'entendre. Même ça doit s'entendre lorsqu'il y a le silence de l'amour de Christ. En fait, nous devons apprendre à aimer. Et ce n'est pas facultatif. Jésus a dit en Jean 15, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors, le programme pour aimer les autres n'est jamais fini. Parce que Christ nous a aimés de façon tellement profonde. On a déjà étudié ensemble les quatre dimensions de l'amour de Christ, sa largeur, sa longueur, sa hauteur, sa profondeur, que c'est un programme pour nous qui est à vie, où on peut sans cesse être renouvelé et découvrir comment aimer mieux les autres. En fait, c'est un commandement, et c'est donc quelque chose auquel nous ne pouvons pas échapper, et laissons sonder nos cœurs pour voir si vraiment nous nous aimons les uns les autres, si nous aimons les autres. Le piège de l'amour envers les autres, c'est l'égoïsme. Je pense que c'est un des péchés subtile dans nos vies, nous les chrétiens. Nous disons que nous aimons les autres, nous disons que nous aimons Dieu, mais jusqu'à quel point sommes-nous prêts à nous donner à Dieu? Jusqu'à quel point sommes-nous prêts à aimer les autres? Et souvent, nos vies sont attachées d'égoïsme. Moi, d'abord. Oh, on ne le dit pas comme ça, mais c'est subtil. Moi, d'abord. Pensons à tout ce qui fait nos priorités dans nos vies. Et peut-être que Dieu veut bousculer cela pour que nous puissions dire « Christ d'abord ». J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. Alors laissons-le vivre entièrement dans nos vies. D'ailleurs, l'apôtre Paul ne peut pas imaginer, inspiré par Dieu, une marche digne qui soit faite sans amour. Et d'ailleurs, Pierre souligne, et je vous le lis, c'est sur mes notes ici, devant moi, « Ayant purifié vos âmes, dit Pierre, en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel, sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. » Donc il n'y a pas de place pour l'égoïsme et pas de place pour l'hypocrisie. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. La mesure de notre amour, c'est ce qui doit être le jalon, en fait. Constamment, devant nous, autour de nous, c'est la parole. La parole nous demande de nous aimer de façon ardente. Et c'est très fort comme mot, cela, dans l'original. Avant tout, dit Pierre, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. On peut dire que la marche dans l'amour va nous demander de couvrir le péché. Et pas simplement le nôtre, mais aussi ceux des autres. En fait, l'amour réciproque dans notre marche, en tant que témoignage d'Église, va demander le pardon. Le pardon réciproque. C'est pour ça qu'en Éphésiens 4, 32, si on pouvait lire juste un petit peu plus loin en Éphésiens, il est écrit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Encore là, la mesure c'est Christ. Combien de fois devrais-je pardonner? 70 fois, 7 fois? 7 fois, disait Pierre, et le Seigneur a dit 70 fois, 7 fois, ça veut dire, mais finalement, tu dois pardonner toujours. Et vous connaissez l'histoire en Matthieu 18 de ce patron qui avait un serviteur qui avait une immense dette. Le patron, par amour, lui décide de lui remettre toute la dette. Mais lui-même, rencontrant un de ses débiteurs, impose la remise de la dette et finalement, comme il ne paie pas, il l'envoie en prison. C'est terrible comment nous, les enfants de Dieu, parfois, nous oublions la mesure de Christ. C'est pour ça que, quand il est question de la marche digne, vous supportant les uns les autres avec amour, la Bible dit en Éphésiens, un petit peu plus loin d'ailleurs, en Éphésiens 5, « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ. » Qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Une façon de nous aimer les uns les autres, ça va être de se donner et de vivre pour les autres. Il y a plus de bonheur à donner que recevoir. Et c'est vrai qu'il y a en anglais un petit mot qui est intéressant. On peut faire cela avec l'anglais, mais pas avec le français, mais tant pis, j'essaye mon anglais, d'accord? La joie, joy. Alors un J, un O et un Y. Pour avoir la joie du Seigneur, Jésus en premier, others, les autres en second, yourself en troisième, c'est dans la mesure où on laisse Christ en premier, alors on va mourir. On n'a pas envie de mourir à soi-même. Mais aimer les autres, ça va demander un processus de mort à soi-même. De voir les autres au-dessus de soi, de les aimer tel que Dieu les a aimés. En fait, Dieu nous demande de nous pardonner les uns les autres. Et cela est impossible sans connaître d'abord l'amour de Dieu. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Vous voulez voir si quelqu'un est vraiment né de nouveau, selon l'épître de Jean, c'est est-ce qu'il a l'amour de Dieu? Est-ce qu'il est habité de l'amour de Dieu? Est-ce qu'il connaît Dieu? Parce que connaître Dieu, c'est connaître son amour, et c'est ce qui nous brise. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés en premier. Et nous proclamons et nous vivons l'amour de Christ parce qu'il l'a fait en nous et c'est un don de sa grâce. C'est pour ça qu'en Colossiens, il est écrit « Soyez bons les uns vers les autres, Éphésiens, compatissants, vous pardonnant, et en Colossiens, supportez-vous les uns les autres. » Tiens, la même chose qu'en Éphésiens. « Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. » C'est facile de pointer du doigt, quelqu'un a dit, mais il y en a trois qui nous regardent. Et c'est vrai, nous devons apprendre à aimer, à voir les autres avec l'amour de Dieu. Un des exercices pratiques, parce que je ne voudrais pas que ce message soit juste des mots dogmatiques, disons. Une façon pratique, c'est de prendre l'annuaire de l'Église, vous mettez à genoux, et jour après jour, dans votre culte personnel, vous priez pour les frères et sœurs. Peut-être un jour c'est les A, B, C, D, un autre jour c'est D. Vous comprenez ce que je veux dire? Et quand vous commencez à prier et être à genoux pour les gens de l'Église, vous allez, et nous allons voir, nous allons nous regarder différemment. Si nous mettons le filtre des nouvelles lunettes, enfin, il y en a qui ont bonne vue, mais l'amour de Christ, nous allons nous voir de façon complètement différente. Quand nous voyons les frères et sœurs avec l'amour de Christ, nous en sommes transportés. Ce n'était que l'introduction ce matin. Mais on va aller un peu plus vite. Vous supportant les uns les autres avec amour, qu'est-ce que ça veut dire supporter? Je te vois, mais qu'est-ce que je t'endure? C'est ça que ça veut dire? Qu'est-ce que tu me rases? Écoute, je te supporte, mais quand tu n'es pas là, je me sens tellement mieux. Alors, voilà ce que j'ai trouvé dans le dictionnaire. C'est le servir de support à les poutres qui supportent le toit. Subir, endurer, tolérer, sans manifester d'impatience, d'irritation, de colère. Opposer la résistance voulue à être à l'épreuve d'eux. Avoir tous les inconvénients résultats d'eux. Par exemple, j'ai eu à supporter de gros frais. Ça vous arrive des fois? Encourager, être un supporteur d'une équipe de sport. Voilà, ça c'est le dictionnaire français. Mais c'est intéressant de regarder le mot grec. Je vous passe le mot, mais il a plutôt l'idée de tenir droit, tenir ferme, d'où soutenir, supporter avec constance, tenir fermement quelqu'un, soutenir, porter, endurer, supporter avec courage. Ça me fait penser, le premier sens du mot dans le grec, c'est tenir droit. Vous avez jamais remarqué que nous, les croyants, on a tendance à vaciller? Il n'y en a pas un croyant parmi nous ce matin. Personne n'est capable de dire qu'il est toujours droit. On a toujours tendance, par ses faiblesses, à aller dans un sens, dans l'autre. La vie chrétienne, c'est une question d'équilibre. Et les frères et sœurs sont là pour, de temps en temps, nous rééquilibrer, parce que nous avons des dons différents, nous avons des qualités différentes. Nous avons des forces différentes et aussi des faiblesses. Et Dieu nous met ensemble de manière à nous soutenir les uns les autres. Pas nous détruire les uns les autres, mais nous soutenir, parfois nous redresser. En tout cas, quand nous faiblissons, dû à différentes circonstances de la vie ou épreuves, Dieu veut que nous nous soutenions. Être droit, c'est ce que Dieu veut pour nous, marcher droit. Mais nous avons besoin les uns des autres. Et c'est tout un programme de miséricorde, de compassion, d'écoute, de prière, d'intercession. Nous devons apprendre à endurer patiemment la souffrance de l'autre, à souffrir avec, compatir, compatir, souffrir avec, dans le latin, admettre, permettre. Par exemple, Paul disait à Timothée, « Sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances. » Fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère, dans le sens que supporter, c'est endurer avec patience. Un joug, un fardeau, quelque chose qui nous pèse, mais dans le cheminement de Dieu, on accepte avec patience. C'était d'ailleurs le sujet de dimanche dernier. En fait, en résumé, parce qu'il faut savoir ce que c'est que de se supporter les uns les autres, il y a peut-être des limites, il faut savoir vraiment ce que ça veut dire. Alors supporter, je pense que quelque part, on ne peut pas enlever l'idée que nous devons parfois accepter les défauts des autres, des frères et sœurs. Se supporter, c'est admettre, supporter les faibles, disait Paul à un moment donné en Romains. C'est accepter que l'autre, par un comportement, peut déroger de ce qui nous semble être droit, et on doit le soutenir, le supporter, voire l'instruire, l'exhorter, même peut-être le redresser, mais on doit s'accepter les uns les autres. Je ne parle pas du péché, là. Je parle d'une faiblesse, ou peut-être d'un manquement, ou le péché qui entraînerait le pardon, comme on a vu tout à l'heure. Alors Paul disait en Corinthiens 6, c'est déjà certain défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres, pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice ? On est parfois prompt à vouloir se faire justice ou à monter sur sa propre justice, sur le trône de sa propre justice, c'est encore l'ego, n'est-ce pas ? Mais dans l'Église, Dieu nous a placés ensemble. Et c'est comme un peu les cailloux au fond d'un lit de ruisseau à la montagne, ça prend du temps. Et les cailloux se polissent les uns contre les autres, puis on regarde un jour, c'est bien rond, ça a l'air naturel, mais ça a pris du temps. L'effet de l'érosion du Seigneur dans nos vies, et parfois il utilise les autres. Ça vous est jamais arrivé d'être dans une église, et puis vous vivez un moment difficile, puis il y a quelqu'un qui vient vous parler, qui vient vous encourager. Pourquoi pas, envoyé par le Seigneur. Mais vous pensiez jamais que Dieu allait utiliser ce frère ou cette sœur juste pour vous encourager. Ou un autre. Pourquoi ? Parce que des fois, Dieu a la façon de nous parler pour nous amener à une écoute avec humilité. Se supporter les uns les autres, c'est savoir écouter, puis parfois avec humilité, que Dieu utilise d'autres personnes pour nous parler. Est-ce qu'on veille à cela ? Est-ce qu'on est conscient que Dieu peut nous parler par les autres? Et est-ce qu'on reçoit, notre récepteur est-il assez humble? Paul disait en Romains 15, « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien vu de l'édification, car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon ce qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. » Voyez. Encore la mesure, la référence de Paul, c'est Jésus-Christ, c'est le Seigneur. Quand Paul nous exhorte en Éphésiens de marcher à l'exemple de Christ dans l'amour, de marcher dans l'amour, c'est suivre les traces de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il n'a pas supporté le Seigneur sur la terre ? Les injustices et les blasphèmes jusqu'à la crucifixion. Il a supporté cela. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Dieu veut que l'on se soutienne les uns les autres. Et puis il y a le deuxième sens, c'est soutenir par-dessous. On trouve ça par exemple, porter les fardeaux les uns des autres. Alors le mot grec ici n'est pas le même, porter les fardeaux les uns des autres, supportez-vous les uns les autres. Mais il y a quand même le sens, dans l'étymologie, que nous avons besoin, pour supporter les autres, de soulager le fardeau qu'ils ont sur leurs épaules. Il y a l'idée de porter les fardeaux les uns des autres, c'est d'aller alléger le fardeau de son frère et sœur. Pour cela, il faut d'abord connaître son fardeau. Et une des solutions, c'est de prier. Se supporter les uns les autres, c'est de commencer à prier pour son frère, sa sœur, mais dans des choses tout à fait pratiques. Priez pour votre pasteur et son épouse, priez pour le conseil, priez les uns pour les autres. Ayez à cœur, les frères et sœurs, renseignez-vous sur ce qu'ils vivent. Vous savez, on a tellement besoin des uns et des autres, qui que nous soyons. On est une famille, on est des vases communicants, nul ne vit pour lui-même, nous dit la Bible. C'est pour ça que nous avons besoin de nous supporter dans les circonstances adverses, les problèmes de santé, les problèmes professionnels, toutes circonstances, enfin, il y aurait toute une liste à faire, sachant qu'en 1 Corinthiens 12, par exemple, il est écrit « Si un membre souffre, les autres souffrent. Si un membre est dans la joie, nous sommes dans la joie. Donc, nous sommes membres d'un corps. Et parce que nous sommes membres d'un corps, nous nous supportons les uns les autres. Nous ne pouvons pas dire à la main d'être indépendante du bras. Nous ne pouvons pas dire au pied d'être indépendante de la jambe et les yeux de la tête. Nous sommes interdépendants. Donc nous soutenir les uns les autres, ça va être de laisser l'amour de Christ dans nos vies, les uns les autres en tant que membres, pour que le corps soit en bonne santé, pour qu'il y ait cette édification, cet amour réciproque de soutien les uns vers les autres. D'ailleurs, le mot grec, il y aurait tout un message, ne serait-ce que pour l'expression « les uns les autres »,« l'un l'autre »,« alléluia » en grec, C'est très fort dans le Nouveau Testament, sous la plume de l'apôtre Paul. Je vous en lis quelques expressions. La Bible dit qu'il faut s'aimer les uns les autres. On est d'accord ? La Bible dit qu'il faut s'accueillir les uns les autres. Alors, se supporter avec amour, c'est s'accueillir. S'exhorter les uns les autres. Le mot grec ici, s'exhorter, ça a l'idée d'instruire, mais aussi d'encourager. De redresser parfois, mais d'encourager. C'est incroyable comment parfois dans le corps de Christ, il n'y a pas les mots d'encouragement, même dans les couples ou envers les enfants. Nous devons apprendre à avoir des mots d'encouragement, d'être reconnaissants des ministères des uns et des autres, de louer le Seigneur pour que chacun ait sa place dans l'Église, qu'il y ait un ministère et d'être reconnaissant parce que c'est la joie du Seigneur cela. S'exhorter les uns les autres, se saluer les uns les autres. Moi je suis sensible à ça, vous le savez. J'aime ça quand on se salue les uns les autres. Parce qu'il me semble que c'est le minimum. En tout cas, moi, j'ai été élevé comme ça. Si on ne dit pas bonjour à quelqu'un, c'est vraiment un manque de politesse et du mépris. Donc, se saluer les uns les autres, c'est biblique. Amen. Bon. S'attendre les uns les autres, s'instruire les uns les autres, se consoler les uns les autres, s'édifier les uns les autres, être bons les uns envers les autres, exercer l'hospitalité les uns vers les autres, ayez les mêmes sentiments les uns vers les autres, ayez soin les uns des autres, se rendre serviteurs les uns des autres, porter les fardeaux les uns des autres. Voyez, le programme est extraordinaire. Maintenant, il y a des avertissements, ne pas se juger les uns les autres, se dévorer les uns les autres, se détruire les uns les autres, se provoquer les uns les autres, se porter envie les uns les autres, ne pas parler mal les uns des autres, ne pas se plaindre les uns des autres. Ainsi, l'un l'autre est précieux pour Dieu. Ma communion avec Dieu, sens vertical, doit se refléter dans mon sens horizontal avec les autres. Il y a toute une différence entre se supporter les uns les autres avec amour ou sans amour. Vous pouvez limiter l'amour, on ne peut pas limiter l'amour. Ça fait toute une différence. Alors j'ai marqué dans mes notes quelques aspects ici. C'est la différence entre l'esprit de critique ou un esprit de pardon. C'est la différence entre un esprit inflexible, dur, voire sectaire, et un esprit de tolérance. C'est la différence entre un esprit de jugement et un esprit de compréhension, de compassion, de pardon à nouveau. Un esprit négatif d'un esprit positif ou de patience, de bonté, d'acception de personnes, donc c'est une forme de racisme, ou un esprit d'accueil envers tous. En fait, toute notre vie est faite d'amour. Dans chaque comportement, dans chaque parole, dans chaque pensée, nous pouvons être baignés de l'amour de Dieu. Et quand l'amour de Dieu est là, les autres choses se mettent en place. On ne peut pas vivre, sacrifier l'amour de Dieu sur l'autel de notre égoïsme. Aimer, c'est d'abord vivre et penser pour les autres. Et dans l'Église, et devant le monde en témoignage, ça devrait être ce reflet-là. Par exemple, quelques aspects que j'ai notés ici, mais on pourrait tous écrire, n'est-ce pas, une liste. L'amour qui laisse l'autre s'exprimer pour comprendre sa pensée. Des fois, dans des conversations, pardonne-moi Seigneur, parce que ça m'arrive, je suis un impatient, la personne a commencé de parler, déjà je l'amène à penser, voilà ce qu'elle doit entendre, alors que je n'ai même pas fini d'écouter ce qu'elle veut dire. L'amour qui veut voir son frère épanouir dans les dons que le Seigneur lui a donnés. Moi, je n'ai pas une plus grande joie que de voir les dons des enfants de Dieu s'exprimer. C'est ma joie de voir des gens qui grandissent dans le Seigneur et qui s'épanouissent dans le Seigneur, que les dons, le potentiel que Dieu leur a donné s'épanouit à la louange. C'est un parfum de bonne odeur devant Dieu. Et c'est merveilleux quand le frère ou la sœur est rempli du Saint-Esprit, utilise son don dans l'humilité, la grâce, dans l'amour, à la gloire de Dieu et pour l'Église. Moi, je crois vraiment ce que dit la Bible, c'est que Christ aime son Église locale, il la chérit. Il en prend soin. Il n'y a rien qui lui échappe. Et quand il voit ses enfants ensemble, qui se soutiennent, qui s'aiment, qui, dans les moments difficiles, s'épaulent, s'unissent, Dieu prend plaisir à cela. Ma femme et moi, nous avons 6 enfants. Mais une des grandes joies dans notre vie, c'est quand on est ensemble, unis, notamment on chante des cantiques, on prie ensemble, on étudie la Bible. Mais quel privilège! Je ne sais pas s'il y a une unité plus belle que cela. C'est l'Église. L'Église aussi est une famille. D'être ensemble, de s'aimer comme des frères et sœurs, de se soutenir, de prendre soin les uns des autres. Quel tableau de la beauté de Christ! Vous allez dans les clubs, au travail, vous avez cet esprit-là? L'Église est l'oasis de Dieu pour nous. Nous venons à l'Église, on se retrouve, on est heureux d'être ensemble. On ne se sent pas condamné, jugé, mais on se sent aimé, on se sent accepté comme on est. Et on a la liberté de vivre ce qu'on est, parce que Dieu nous a donné la liberté. On a même la liberté de faire des erreurs. Ça vous arrive de faire des erreurs dans l'Église? Oui, on en fait tous des erreurs. Mais est-ce que Dieu ne nous aime pas malgré tout? Et on peut avoir cet esprit de tolérance. Ça se manifeste aussi par l'affection, j'ai mis des gestes d'honneur, de prévenance, de respect. Il y a une façon dans le langage, dans la parole, même dans les yeux, de respecter son frère et sa sœur, qui se manifeste par des actes, parce que la Bible dit « n'aimons point en parole, mais en action ». Et l'amour, ce n'est pas simplement un sentiment passager, comme j'aime bien illustrer cela, c'est le jeune homme qui dit à la jeune fille « je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Et elle lui dit « mais quand est-ce qu'on se marie ?» Puis il n'a pas de réponse. Ça, ce n'est pas de l'amour, ça. C'est du sentimentalisme. Dans l'Église, sentiment, oui, sentimentalisme, attention, mais action d'amour, pratique, tangible, qui fait du bien à l'autre, oui, et dans les choses petites comme dans les grandes choses. Nous devons être plus sensibles les uns vers les autres. Et aussi, l'amour, c'est un amour qui est attentif aux autres, qui aime la vérité, et qui cherche ce qui unit plutôt que ce qui divise. La Bible dit, et il faudrait prendre presque le temps de lire 1 Corinthiens 13 à propos de la charité. Hein. D'ailleurs, il y a un certain texte ici qui traduisent par charité ou amour, mais en fait, la charité, c'est l'amour en action, quelque part. Et la Bible dit, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle... Je recommence. Elle excuse tout, la charité, l'amour, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Tout! Tout, tous les frères et sœurs, vous supportant les uns les autres avec amour. La Bible dit, pour terminer, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Un bon exercice à faire dans nos vies. C'est demander au Seigneur, puisque Dieu veut qu'on marche de façon digne les uns les autres, nous supportant, nous soutenant, souffrant ensemble et aussi dans la joie ensemble, c'est de prier Dieu et de dire « Seigneur, montre-moi comment aimer mon frère et ma sœur selon ton amour. » Et je suis sûr que si on commence à s'aimer selon la mesure de l'amour de Christ, ça va faire toute une différence dans nos vies. Il y a déjà l'amour parmi nous. Mais certainement qu'on peut marcher avec Christ, approfondir sa vie, imiter Christ. Et ce n'est qu'une esquisse ce matin de ce tableau. À vous à rajouter les traits qui ne sont pas encore mis sur le tableau, mais c'est toute une vie, c'est le programme de Dieu dans l'Église, de nous supporter les uns les autres. Pas de nous endurer, c'est difficile à vivre ensemble, mais de nous aimer au point où chaque fois qu'on touche à un frère et sœur, à un frère et sœur, c'est comme si on touche à la prunelle de l'œil de Dieu, pour avoir cette vision, Christ, pour lequel le frère et la sœur, Christ, est mort. Si nous avons cette vision, alors on va être très sensibles les uns vers les autres. Voilà, frères et sœurs, prions. Notre Père céleste, nous avons besoin d'apprendre à aimer comme toi tu nous aimes et en Jésus-Christ. Et nous sommes à ton école, l'école du Seigneur, nous voulons apprendre. Merci pour ce programme, merci de cette capacité que nous avons en Christ de nous aimer les uns les autres. Et nous proclamons que nous voulons vivre de façon digne, en toute humilité, avec patience et nous supportant les uns les autres. Merci Seigneur de cette belle parole que tu nous as laissée. Amen.